Et Dieu est souverain. Alors, je vous propose ce matin, il avait été annoncé la semaine dernière, si vous pouviez préparer un petit peu ces instants pour la lecture de l'Épître aux Galates, on va essayer de revenir de temps en temps à des choses fondamentales, tellement importantes pour notre foi. Nous sommes tellement interpellés par tout ce qui se passe autour de nous, on entend parler tellement de choses que j'ai besoin de revenir donc à des choses importantes. Alors on va essayer de parcourir ce matin, alors je ne veux pas faire une étude biblique, je ne suis pas un champion de l'étude biblique, mais je vais essayer de vous donner envie de parcourir ces 6 chapitres. Ceux qui l'ont fait, c'est relativement vite lu, mais par contre, c'est vraiment plein d'enseignements et surtout plein de fondamentaux entre la foi, la loi, la grâce de Dieu. Il y a vraiment des choses extraordinaires. Dis Max. Alors donc ce matin, un petit peu en introduction, l'Épître aux Galates. On ne se trompe pas, Gavin, hein, je crois que son auteur c'est Paul. On rigole, on vous expliquera pourquoi un jour. C'était les Hébreux, hein, c'est ça? C'était les Hébreux, hein, parce qu'on était deux à avoir trouvé l'auteur de la lettre aux Hébreux dans nos messages. D'accord. Alors, la justification par la foi, en titre, proclamation de l'évangile de la liberté. Ce qui sauve, ce qui justifie, ce n'est pas l'observation de préceptes ou des coutumes, ce ne sont pas davantage les œuvres ou l'observation de la loi morale. Ce qui assure la paix intérieure, ce qui procure la justification devant Dieu, c'est l'œuvre de Christ, car l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. C'est cette fameuse doctrine de la justification par la foi. Point de départ, clé de voûte, le fondamental de toute chose. Alors, une première diapositive, ou s'il y a quelque chose à se rappeler ce matin, c'est ce qui a marqué sur cette diapo, je la mettrai à la fin, même si vous oubliez tout ce qui a été dit au milieu, au moins donc ces choses-là. Ce n'est pas donc l'observation de lois ou de pratiques qui peut nous sauver. Le salut est gratuit, il s'obtient par la foi. La justification est un don de Dieu. Elle nous a été acquise par Jésus-Christ sur la croix. C'est là où vous voyez à peu près ? C'est pas trop. Le croyant justifié est désormais une nouvelle créature. Galates 6,15 pour ceux qui prennent des notes. Il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5,24. Vous verrez que dans ces 6 chapitres, on passe du salut, on passe de la nouvelle créature, mais on parle de la chair, on parle des désirs, on parle des choses crucifiées dans notre être. Des choses qui nous touchent chacun. Conduit par l'esprit, pas tout seul. Le croyant justifié obéit à une loi de liberté, nous est-elle dit, chapitre 5, verset 13, loi de l'amour, ouvrez les guillemets, je cite le verset, frères, vous avez, et sœurs, on rajoute, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs, les uns des autres. Tout un programme, parce que voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, au moins ces 4 choses-là, je représenterai à la fin ce slide. Alors, l'essentiel de l'enseignement que l'on peut tirer de l'Épître aux Galates. Alors l'épître aux Galates est une lettre apologétique, non barbare, c'est-à-dire écrite pour la défense de la foi. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est... Il y a besoin de la défendre, la foi. Ben oui, on le voit, l'histoire nous le montre. Par le passé et aujourd'hui, la foi a besoin d'être défendue. Rapidement, après le départ de l'apôtre Paul, les églises de la Galatie, je crois que c'est le centre de la Turquie, il semble, la Galatie, quelque chose comme ça, un peu plus bas, voilà, avaient été visitées par des prédicateurs d'origine chrétienne, mais d'origine juive, qui enseignaient qu'il fallait respecter toute la loi donnée par Dieu à Moïse, et en particulier d'être circoncis. Donc Paul était venu dans un premier voyage, beaucoup s'étaient convertis, et puis d'autres, après son départ, étaient passés et avaient enseigné des pratiques qui ramenaient, qui mélangeaient la loi, voilà. Donc Paul est revenu un peu bouleversé par ces nouvelles, il a écrit une lettre passionnée, elle est forte, il y a des mots, des verbes très importants. Il dit son étonnement, son indignation, sa douleur devant l'état spirituel des Galates qu'il a laissé et qu'il retrouve. Il dit aussi son amour. On peut noter rapidement quelques expressions. Je m'étonne, je déclare, je ne mens pas, je crains, je vous en supplie, je suis dans l'inquiétude, je vous dis, je proteste. Des verbes importants, forts qu'il utilise dans cette lettre. L'Épître aux Galates est sûrement une des lettres les plus importantes du Nouveau Testament. Pour ceux qui veulent aller plus loin, elle doit impérativement s'étudier parallèlement avec celle de l'Épître aux Romains, c'est quelques pages avant. Ces deux écrits de Paul nous font connaître cette doctrine si importante de la justification par la foi. Quand on rend témoignage, on dit ben, « moi je m'en fiche, je suis justifié, je suis une nouvelle créature, justifié de quoi ?» Il faut avoir des arguments pour pouvoir répondre. Il y a des choses très intéressantes, essentielles de l'enseignement. Rapidement, trois mots qui pourraient résumer l'Épître. L'autorité, on va voir que dans les premiers et deuxièmes chapitres, Paul se présente comme apôtre, on le verra un peu plus, et puis de la part de Dieu. On voit aussi qu'il va nous parler de la grâce. Paul défend l'évangile de Jésus-Christ, c'est plutôt dans le centre, les chapitres 3 et 4. Et puis après, il va nous parler de l'esprit, n'est-ce pas ? La vie de l'esprit se manifeste par des choses concrètes, notamment cette notion importante où Paul dit plusieurs fois « Maintenant, Christ vit en moi ». Très important parce que face à des personnages d'une telle ampleur que Paul ou des choses comme ça, il dit au final que lui, il est rien, c'est Christ en lui qui vit et qui le pousse à agir. Je crois que c'est la clé de voûte très importante pour chacun d'entre nous. Alors l'autorité de Paul. Un apôtre qui a été établi par Jésus-Christ, Dieu le Père. Paul, apôtre, au nom de la part, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité. Donc, introduction, il faut quand même avoir une certaine autorité pour pouvoir écrire ça et se présenter. Il a été appelé directement, non pas par des hommes, mais par Dieu. Il affirme directement son autorité. L'évangile qu'il annonce ne lui a pas été transmis par des hommes. Il ne l'a pas reçu ni de Pierre, ni de Jacques, ni de Jean. C'est une révélation personnelle de Jésus-Christ qui a reçu l'évangile avec une très grande autorité. Paul n'a pas peur de venir et de dénoncer l'erreur dans cette épître. Il accepte aucun compromis. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il résistera aux faux frères, chapitre 2, verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Il faut débattre, il faut pouvoir répondre sur les fondements. L'erreur qu'il combat dans cette lettre, le retour aux pratiques juives, hein, il dit clairement, c'est un autre évangile. C'est un autre évangile. Ce n'est plus l'évangile. Paul va fort parce qu'il dit au verset 8 qu'il soit anathème. Aujourd'hui, comme autrefois, certains prédicateurs enseignent de fausses doctrines et apportent le trouble dans l'Église. Il nous faut de la connaissance et du discernement. Jeudi soir, on a eu Eric Wächter qui est passé, qui nous a présenté un peu de la droite à la gauche, le paysage évangélique français. C'est intéressant parce que c'est une présentation qui a été faite à partir de l'Observatoire national des religions, non pas par un évangélique, d'accord ? Et les classifications sont tout à fait intéressantes. Mais clairement, que ce soit d'une extrême d'un côté ou d'une extrême de l'autre, il y a certaines doctrines, il l'a prononcée, où on se pose la question, ce n'est plus l'Évangile. Ces lettres de Paul, cet épître est d'une actualité, et je pense le va l'être de plus en plus. Vous allez peut-être voyager, vous retrouver dans comme Eric, à Séoul pendant 3 jours, invité soi-disant par des églises, et un truc de fou, quoi, où Eric, on l'a soumis à la pression, vous lui demanderez un jour, c'est plus du tout l'Évangile, quoi. Il est parti au bout de 24 heures, ou 48 heures, il a fait demi-tour. Important. Alors, l'autorité aujourd'hui. J'y suis réfractaire. Tu irais réfractaire, nous sommes tous réfractaires à l'autorité, n'est-ce pas ? À peu près celle qu'on supporte, c'est à peu près la nôtre, n'est-ce pas ? Celle de notre femme, peut-être, de temps en temps, pas tout le temps, mais bon. L'autorité d'aujourd'hui, on y est réfractaire. Ça, c'est une donnée de base pour l'être humain. Elle est là pour notre bien, dans le cadre chrétien. Elle doit s'exercer pour édifier et non pour détruire. Elle ne vient pas de l'homme ni de ses capacités, mais elle vient de Dieu. Ça aide. Quand un sentiment d'autorité vient, si un enfant de Dieu a le sentiment que cette autorité, que cette injonction, que ce coup de pied derrière, que cette indication forte vient de la part de Dieu, vient de la part du Seigneur. Je pense que c'est le seul et unique moteur qui est capable de nous faire bouger. Acceptons-nous l'autorité de la parole de Dieu ? L'autorité des autorités mises en place, quelles qu'elles soient, dans l'Église, au boulot, dans la ville ? L'autorité des ministères que le Seigneur a donné à l'Église, au sens large, quelles conséquences pour notre vie. C'est quelque chose qui nous invite aussi à regarder nos frères et nos sœurs avec les lunettes de Jésus-Christ. Jean Koumarianos disait, l'Église à vue humaine est une folie. On est tous des individus avec nos caractères de chien, les uns et les autres. Je m'inclus dedans. Si on n'a pas les lunettes de Christ quand on regarde à son frère et à sa sœur, tout droit, on va à l'échec. Alors, on voit que Paul vient avec autorité, mais il assoit aussi son autorité, on l'a vu, parce qu'il a été éclairé, il a reçu cette révélation, mais il a un témoignage sympa, Paul, quand même. Le témoignage de Paul. Un, il n'a pas résisté à cette vision céleste, hein, dans Actes 26, au verset 19. L'évangile qu'il annonce lui a été transmis par Dieu, il a de la chance, hein, mais bon. Nous, il nous a été transmis d'une manière typographique, donc on a de la chance aussi. Rapidement, concernant le témoignage de Paul, dans les Actes, Paul raconte son témoignage et le situe dans l'espace et dans le temps. C'est important ces choses pour chacun d'entre nous. Hein. Témoignage, on rend son témoignage, on le situe dans l'espace et dans le temps. Vous allez trouver dans l'Épître aux Philippiens, il va témoigner de la force, de la richesse de sa conversion et le changement qu'il a apporté. Il va décrire ce qu'il avait reçu avant de sa religion et ce qu'il a découvert en Christ. Et puis bien sûr, dans ce qui nous concerne ce matin, dans Galates, il va parler de la révélation du Fils de Dieu en lui. On va venir. Révélation du Fils de Dieu en lui. Qui débouche sur la vie de Christ dans chacun de ses enfants. Aussi bien dans moi, dans toi, que dans Paul. Et au final, ceci va le conduire à déclarer à la fin de sa lettre, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Chapitre 6, verset 15. Révélation du Fils de Dieu en lui. J'ai trouvé cette petite remarque. Quand nous témoignons, est-ce qu'il peut aussi nous encourager? Quand on témoigne, et on se dit, mais pourquoi il ne comprend pas quand on essaye de démontrer? Les rationalistes, les athées, ne peuvent accepter la révélation. La découverte de Dieu doit être le fruit d'une réflexion pour ces gens-là, de leur science. Mais Dieu ne prouve pas son existence, il prouve son amour. C'est là où la science, la démonstration mathématique, elle est complètement déconnectée. C'est là que commence la foi. Ce pas, cette avancée extraordinaire. Dieu ne prouve pas son existence, il prouve son amour. Notez le mot, on verra un peu plus loin, révélation de son Fils en moi. Paul parle d'un Christ intérieur, nouvelle créature. Il vit en moi, c'est une réalité. Alors, qu'en est-il de mon témoignage? Est-ce que c'est plus qu'un vague souvenir d'une expérience? Rappelons-nous, bien sûr, on doit toujours se rappeler que Christ s'est donné lui-même pour moi, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. On a eu des témoignages ce matin. Selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Les versets 3 et 5 du chapitre 1. Voilà quelques illustrations concernant l'autorité de Paul. Alors, le deuxième point important, ça fait partie des trois mots, le mot grâce, une doctrine à défendre. Avant tout, le point de départ, bien évidemment, la grâce opposée aux œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible ouverte, là, à l'Épître aux Galates, et puis si je dis une liste de versets, qui va pouvoir les attraper vite fait. Yévin, t'es prêt? La grâce de Dieu. Ce mot est la trame de toute l'Épître. Chapitre 1, verset 6.
Je me donne la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ.
Verset 15, toujours dans le même chapitre.
Et Dieu m'avait mis à part avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appris à le connaître.
Chapitre 2, verset 9.
Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière.
Vous pouvez noter là que l'apostolat de Paul est reconnu par les autres apôtres. Il n'était pas tout seul. Verset 21, toujours le chapitre 2.
Ainsi, tu ne rejettes pas la grâce de Dieu en revenant à la loi.
Chapitre 4, verset 7.
Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu.
Chapitre 5, verset 4.
Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce.
Et pour terminer, chapitre 6, verset 18.
Et après, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Voilà. La grâce de Dieu, c'est la trame de toute cette épître. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la grâce. L'appel de Dieu, c'est une grâce. Le pardon de Dieu, c'est une grâce. Le service que Dieu me confie, te confie, nous confie, c'est une grâce. Tout est grâce. Pour le montrer, cette grâce, Paul va de nouveau exposer aux Galates la doctrine de la justification. Il recommence, c'est pour ça qu'il y a besoin de revenir sans cesse aux fondamentaux, sinon on n'est plus dans le bon évangile. Dans les lettres de Paul, on va trouver l'enseignement d'un docteur et l'expérience d'un pasteur, les deux. Il y a un lien plus qu'étroit, mais plus qu'étroit entre son discours, c'est pour ça que je me fais tout petit, et son vécu, et son témoignage. Pourquoi il parle avec tant d'autorité? Parce que le vécu est en accord avec le témoignage. Il vivait ce qu'il prêchait. Il savait comment les assemblées avaient reçu son message. Le témoignage se voit de l'extérieur, il était venu une première fois, il revient, hop. Alors, revenons à quelques informations concernant donc cette grâce de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'épître aux Romains, pour ceux qui notent, notamment au chapitre 3, il y a l'exposition de cette doctrine. Dans les Galates, il y a la défense de cette doctrine. Et dans les Philippiens, il y a le vécu de la doctrine. Une question essentielle. Comment pouvons-nous être justifiés devant Dieu, c'est-à-dire déclarés justes? Deux possibilités. La première, en essayant d'observer la loi, toute la loi, ou en nous confiant dans l'œuvre de Christ sur la croix. Jésus a déclaré dans Jean 6 au verset 28 aux Juifs qui lui demandaient « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et il répond « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui a été envoyé. » Paul enseigne à nouveau aux Galates le message de la croix, fondement de la justification par le moyen de la foi. C'est important de comprendre ça. Je suis sauvé, je suis justifié, je suis rendu juste uniquement par l'acte de la mort de Christ sur la croix. Tout ce que vous pouvez rajouter d'autre autour, badigeonner, ce n'est plus l'Évangile. Quelques arguments donnés par Paul. Paul cite, vous le verrez, l'exemple d'Abraham. C'est parce qu'il a cru qu'il a été justifié. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Celui qui cherche à être justifié par la loi est sous la malédiction, car la loi déclare maudit quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est impossible sur le papier de respecter et de devenir juste aux yeux de Dieu en respectant la loi. C'est impossible. Chapitre 3, verset 10. C'est pour cette raison que Christ est venu nous racheter de cette malédiction. C'est en fait malédiction pour nous. Chapitre 3, les versets 13 et 14. Gavin, tu l'as, il fait 3, 13, 14.
Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi nous a posée sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place.
Voilà. Vas-y, fais-y.
Il est en effet écrit, maudit et quiconque est vendu pour le fil de Dieu. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui la bénédiction d'Abraham s'étende au monde.
Vous voyez l'accomplissement aussi des promesses. Dieu parle à Abraham, toutes les promesses, le Christ, cette bénédiction s'est ouverte pour nous. La promesse faite à Abraham ne peut être abolie. Abraham a cru et a été béni. Nous aussi, nous sommes bénis en lui si nous croyons à cette promesse de l'Évangile. Alors pourquoi la loi ? Hein, c'est une question qui vous me turlupine et vous turlupine. Est-ce qu'il faut, à quoi elle sert cette loi ? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Pas d'actualité. Paul nous répond. Les versets, chapitre 3, les versets 24 et 25. Gavin ? Alors, la loi, en d'autres textes, a été donnée comme un pédagogue. C'est un révélateur, un précepteur, certains. La loi révèle la faute. Juste avant de vous, la loi révèle la faute. Sinon, s'il n'y a pas de règlement, où est le blanc, où est le noir ? Frères et sœurs, quand je l'espère, vous vous souvenez, quand vous avez plié le genou, vous avez, on a une expression, on dit vous avez été convaincu de péché. C'est vrai, c'est une expression qui vous dit quelque chose, qui vous rappelle des souvenirs. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu de péché ? C'est qu'il y avait des choses qui étaient, que Dieu avait en horreur, qui vous étaient révélées quand vous avez enseigné par la loi, tout ce qu'on vous a enseigné. C'est la loi qui nous indique ce qui est péché. De ce qui n'est pas péché. Et on se rend compte, quand on est convaincu de péché, que cette loi, elle est tellement insurmontable, on ne peut rien faire seul. On dit, Seigneur, allez, ça va, je me confie. Toi, le sacrifice parfait, tu l'as pris, tu m'as sauvé, tu m'as béni. Toi, à tes yeux, ce sacrifice, il est 100% igomtou. Je suis rendu juste et moi, j'y arrive pas. Cette loi, elle est là pour nous rappeler ce qui est bien et ce qui est mal aujourd'hui. Pour la petite histoire, il y a, vous savez, dans notre beau pays de France, vous savez qu'il y a quand même des grandes luttes entre l'athéisme militant, le laïcisme militant et puis donc le monde croyant. Il y a des batteries de juristes qui essayent de travailler sur un nouveau code civil et pénal où tout ce qui pourrait être référence quelconque à des racines judéo-chrétiennes soit extirpé. La loi est là. Tu ne voleras point. La loi révèle le péché. La foi fait de nous des enfants de Dieu, fait de nous ses héritiers. Chapitre 4, verset 6-7, Gavin.
Parce que vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tout que tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu.
Grâce à Dieu. On n'y peut rien, on est redevable de nous, de nos actions, on ne peut rien faire, il a tout fait. Par la foi, nous disons à Dieu notre confiance, On donne souvent cette image du petit bébé qui se jette dans les bras de sa mère, il ne comprend pas, mais il y va. Plus tard, il va comprendre quand il va grandir, mais au moment où il saute dans les bras de sa maman, il lui fait complètement confiance. Par la foi, on dit à Dieu, je te ferai confiance, je t'abandonne tout. La foi établit une relation d'amour avec le Créateur et sa créature. Par la foi, nous disons notre impuissance à plaire à Dieu. On ne peut rien faire par nous-mêmes, par nos actions. Nous disons aussi par la foi, nous témoignons de la puissance de ce Dieu qui nous sauve. La loi et la foi. Près de 15 fois, ce couple de mots est utilisé dans le chapitre 3. La loi est juste, sainte, bonne, spirituelle. Une petite incartade du côté de Romains, mais impuissante, nous dit Romains 7, 12 et 14. Elle nous donne la connaissance du péché. Romains 3, 20. La loi parfaite, c'est la loi de la liberté. La loi royale, c'est la loi de l'amour. Et la loi victorieuse, c'est la loi de la vie. Peut-on se poser cette question? Est-ce que je connais ces choses? Est-ce que je vis ces choses? Ou est-ce que je suis au quotidien dans la triste expérience des Galates qui essayent de construire un peu en mettant des pratiques, en rajoutant un peu des choses dans mon quotidien, en disant bah, « je vais faire comme ci, comme ça, voilà, c'est un peu bancal, mais bon, ça va le faire ». Vivez-vous sous la loi ou sous la grâce ? Chapitre 3, verset 27 de l'Épître aux Galates. As-tu... As-tu revêtu Christ ? Préliminaire à toute chose, à toute marche. Le Dieu de la promesse. Dieu a donné la loi car il fallait que l'on sache ce qui était bien et était mal, encore une fois. Mais Dieu n'est pas un moralisateur. Il bénit dès le commencement. Il a promis la bénédiction, hein, celle qu'on se... La bénédiction, la promesse faite à Abraham. Dès que Dieu nous appelle, c'est pour nous faire connaître sa promesse d'amour, de vie et de bénédiction. Jésus est venu pour nous redire la promesse du Père, 1 Jean 2, 25, la vie éternelle. On boucle le cercle, la vie éternelle. Et acte 3, 26, Dieu l'a envoyé pour nous bénir. Alors vous allez me dire, c'est vrai que dans leur bidonville, c'est dur au quotidien, mais je suis sûr que dans nos pays confortables franco-français au niveau matériel, il y en a, je peux vous garantir, c'est des bidonvilles dans leur vie. C'est pas du matériel, mais... Il y a des déserts et des bidonvilles spirituels autour de nous, frères et sœurs. Il faut ouvrir nos yeux avec les yeux de l'amour, écouter. Très important. Dieu l'a envoyé, Christ, pour nous bénir. Ah, voilà quelque chose qui va plaire. L'évangile de la liberté. Alors ça, youhou. Je suis libre. Le chapitre 4 introduit la notion de liberté. Avant de connaître Christ, nous n'avions que les rudiments du monde pour nous conduire. En fait, nous étions esclaves, mais le Christ est venu nous libérer. Chapitre 4 et versets 1 à 7, je vais vite en résumer. Il est né d'une femme, né sous la loi, comme nous, pour nous racheter et faire de nous ses fils adoptifs. L'Évangile nous a rapporté cette parole de Christ dans Jean 8 au verset 36. Si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. On connaît ces versets, on les aime bien. Nous avons été libérés en Jésus-Christ. restons libres, il faut que je reste libre, ne nous mettons pas de nouveau sous le joug de la loi, de notre propre loi, ou celle des autres, la seule, se mettre sous le joug de la loi ou d'une autre loi, c'est rejeter Christ. Circoncision ou incirconcision, puisqu'il en était question. C'est en voulant les obliger à se faire circoncire que de faux docteurs semaient le trouble parmi les Galates. Paul reprend avec autorité, avec sévérité. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Chapitre 5, verset 3. Il utilise des expressions fortes au chapitre 5. Hein. Le Christ ne vous sera d'aucune utilité. Vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Important, très important. Analysons pourquoi l'homme revient toujours, sans cesse, à la loi. Le chapitre 6 au verset 12, Gavin nous répond.
Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix.
Vous avez entendu ce verset? Parce qu'on ne veut pas de la croix. Parce que la croix signifie engagement, signifie persécution, ce verset nous dit. On revient sans cesse à la loi parce qu'on ne veut pas de la croix. Pour Paul, la croix est son seul sujet de gloire, verset 14. Il avait déjà écrit au chapitre 2 et au verset 20, « Je suis crucifié avec Jésus-Christ ». La croix est présente tout au long de cette lettre. C'est la croix qui fait de nous une nouvelle créature. Je ne deviens pas moi-même par moi-même nouvelle créature. C'est la croix qui fait de nous une nouvelle créature. Allez, c'est bientôt fini. Troisième mot important, la marche selon l'esprit. C'est la partie pratique de l'épître. Paul défend la vie de l'esprit. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Il ne suffit pas de croire, il faut agir. La foi dans l'amour fait naître l'amour. 1 Jean 4, 19. Nous aimons, diront l'apôtre, parce qu'il nous a aimés le premier. Encore une fois, tout vient de lui. Si je ne suis pas conscient au quotidien de l'amour que Christ, que Dieu le Père a eu pour moi, je ne peux pas être un vecteur de l'amour de Christ en regardant mon frère et ma sœur ou en regardant les uns et les autres. Tout vient de lui, rien vient de nous. S'il vit en moi, il va rayonner à travers moi, mais c'est pas moi. Alors l'évangile du Christ, on l'a vu, c'est l'évangile de la grâce, c'est l'évangile du pardon. Romains 5, 20 nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien sûr, cela ne nous donne pas le droit de pécher. Bien au contraire, la grâce nous enseigne à vivre. On le verra au mois de juin, on va avoir toute une série sur l'épître à Tite. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre. C'est l'évangile de la liberté en Christ. Nous sommes libérés de la loi. Ne nous laissons pas de nouveau nous mettre sous son joug. Sachons tenir ferme sur le terrain de la foi. Nous sommes libérés du péché. Ne nous laissons pas de nouveau dominer par ce péché. On pêche, c'est clair, mais il ne faut pas se laisser de nouveau submergé. Le conflit chair et esprit. Il y a un conflit loi et foi. Il y a aussi un conflit chair-esprit. La loi nous maintient sur le terrain de la chair et la foi nous établit sur le terrain de l'esprit. On a la tête au ciel, mais on a les pieds sur terre, n'est-ce pas? Car c'est par l'esprit que nous vivons. Et c'est aussi par l'esprit que nous devons marcher. C'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui doit être notre moteur, notre carburant dans notre vie de tous les jours. C'est la victoire proclamée en Romains 8. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs, on a cette grâce extraordinaire. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes justifiés, nous sommes affranchis. Ouvrons le robinet de l'Esprit de Christ qui est en nous et il pourra avancer. Alors tant pis, hein, les œuvres, on a dit l'Esprit et la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. 5, 19, 21, Yérine. 19 à 21, tu peux lire rapidement.
Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme du vrai humain. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la dérive, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que les déclarent à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu.
Laissons-le vivre en nous. On sait tous que je suis capable d'être colérique, d'être méchant avec mon frère, parce qu'on ne le laisse pas vivre en nous. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui se laissent submerger par ces choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est un des plus beaux versets de la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui va à l'opposition de notre racine de chair terrible et délicate. Le péché que nous avons en nous. Alors, la vie de l'esprit se manifeste par du concret. Pardon. Les versets chapitre 6, hein, vous pouvez le relire. Redresser avec un esprit de douceur celui qui est tombé. 6.1. Compassion, porter les fardeaux les uns des autres, 6.2. Humilité, aucune illusion sur nous-mêmes, c'est intéressant, si tu peux lire le verset 3 et 4 du chapitre 6.
Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, il s'agit d'une. Que chacun examine son propre comportement. S'il découvre quelque aspect louable, alors il faut en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison.
Donc pardon, compassion, humilité, consécration, tous nos biens sont au Seigneur. Quand je dis tous nos biens, tous nos dons, toutes nos qualifications, toutes les choses matérielles, tout est à lui. Les versets 7 à 10 nous disent « Semons abondamment et nous moissonnerons abondamment ». Je vous l'avais promis, le revoilà, le rappel, si vous voulez vous souvenir, c'est la première slide. Ce n'est pas l'observation de la loi morale qui peut nous sauver. Le salut est gratuit, il s'obtient par la foi, la justification est un don de Dieu. Cherche pas à te justifier, tu n'y arriveras pas. Elle nous a été acquise par la croix, par Jésus-Christ sur la croix. Le croyant justifié est désormais une nouvelle créature. Il a crucifié la chair avec ses passions. Conduit par l'esprit, le croyant justifié, conduit par l'esprit, et uniquement comme ça, le croyant justifié obéit à une loi de liberté. Sans l'esprit, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas avancer. Je termine en disant que la vie selon la chair est égoïsme, déshonneur de Dieu, échec et mort. La vie selon l'esprit est victoire, service, gloire de Dieu et vie. Ce verset aussi qui est très important, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu as plié devant le genou devant le Seigneur, par grâce, tu es une nouvelle créature, tu es justifié. Rappelle-toi ces choses. Laisse-le vivre en toi. Et ce verset, je termine, avant de prier, de ce verset de Galates 17, 18, qui est le dernier. Je vous laisse un peu comme un point d'interrogation ces deux versets. Que personne, c'est Paul qui dit, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Seigneur, merci pour ces instants, merci pour ce temps de préparation qui était d'un grand enseignement. Seigneur, aide-nous à revenir aux fondamentaux, à redécouvrir peut-être dans nos vies la grâce manifestée à la croix, Seigneur, pour nous. Seigneur, donne-nous aussi de reprendre peut-être la décision de laisser vivre ton esprit en nous, afin que tu puisses révéler, que tu puisses briller au travers nous, pas grâce à nous, mais grâce à toi, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons encore à toi, merci parce que, comme nous l'avons lu, nous sommes tes enfants, nous sommes tes héritiers, Seigneur, et par ta volonté, uniquement toi, parce que tu l'as voulu. Seigneur, je nous remets encore à toi, veuille bénir chacun encore pendant toute cette semaine. Amen.